Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Les Nouveaux Chemins.
Enregistrement de l'émission de la radiodiffusion française Plateforme 70 sur l'âge atomique et qui provoqua une panique.
Les Nouveaux Chemins vous accompagnent du lundi au vendredi de 10h à 10h53 en direct et à toute heure du jour et de la nuit en téléchargement. Chaque semaine, nous vous proposons un thème que nous arpentons en empruntant les sentiers de la philosophie, du cinéma et de la littérature. Et chaque jour à 10h50, vous retrouvez les 2 minutes papillon de Géraldine Mosna-Savoie pour une plongée dans l'actualité éditoriale philosophique. Voyage au cœur des atomes cette semaine en compagnie de Lucrèce et de son poème philosophique intitulé « De la nature » qui dépose le miel poétique sur les bords de la coupe philosophique d'Épicure. Alors si la nature se compose de matière et de vide, si l'univers illimité est fait d'atomes incolores et inodores, comment alors expliquer le surgissement de la liberté? Si rien ne naît de rien, comment la matière peut-elle être à l'origine de la vie? C'est le philosophe Jean Salem, professeur d'histoire de la philosophie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur d'un ouvrage consacré aux atomistes de l'Antiquité, Démocrite, Épicure et Lucrèce aux éditions Flammarion, qui vient pour vous répondre à ces questions aujourd'hui. Bonjour à vous Jean Salem.
Bonjour Adèle Van Rey.
Dommage que vous n'ayez pas fait le ménage. Maintenant, je vais vous empêcher de dormir toute la nuit.
Regarde ce que tu as fait à ma sœur.
Une minute, ne m'accuse pas. Ta sœur l'a bien mérité. Vous aviez été prévenu que si vous ne faisiez pas le ménage, le monstre poussière apparaîtrait. Tu ne te rappelles pas où a vu de la poussière aujourd'hui? Elle virevoltait à travers les airs vers la fenêtre ouverte. Souviens-toi.
Observe. Toutes les fois qu'un rayon de soleil se glisse et répand son faisceau de lumière dans l'obscurité de nos demeures, tu verras une multitude de menus corps se mêler de mille manières parmi le vide dans le faisceau même des rayons lumineux. Et, comme engagés dans une lutte éternelle, se livrer combat, bataille, guerroyés par escadrons, sans prendre trêve, agités par des rencontres et des divorces sans nombre. Tu pourras conjecturer par là ce qu'est l'agitation éternelle des corps premiers dans le vide immense, pour autant qu'un petit fait peut nous fournir un modèle des plus grands et nous mettre sur la trace de leur connaissance. Une autre raison pour observer avec plus d'attention ces corps que tu vois s'agiter en désordre dans les rayons du soleil, c'est que de telles agitations nous révèlent les mouvements secrets, invisibles, qui se dissimulent aussi au fond de la matière. Car souvent, tu verras beaucoup de ces poussières, sous l'impulsion de chocs invisibles, changer tout à fait de route et, repoussées en arrière, rebrousser chemin, tantôt ici, tantôt là, partout, dans toutes les directions. Or, il est évident que cette marche errante provient tout entière des atomes. Les principes, en effet, sont les premiers à se mouvoir par eux-mêmes. Ensuite, les plus petits des corps composés, qui, pour ainsi dire, sont par leur force les plus proches des atomes, sous les chocs invisibles de ces derniers, s'ébranlent et se mettent en marche, et eux-mêmes, à leur tour, en déplacent d'un peu plus grand. C'est ainsi que, partant des atomes, le mouvement s'élève et parvient peu à peu jusqu'à nos sens.
Comprendre ce que sont les atomes, au champ 2 de son poème de la nature, Lucrèce emploie l'image des particules de poussière dans un rayon de soleil qui permettent de figurer au sens humain, à travers la vue notamment, les mouvements incessants des atomes invisibles. Et pourtant, les atomes ne sont pas la poussière elle-même. Alors que sont-ils, Jean Salem?
Lucrèce, qui reprend d'ailleurs ce qui se trouve déjà dans un passage
du père fondateur de l'atomisme grec, Démocrite. Démocrite, 5e siècle avant Jésus-Christ, Épicure, 3e, Lucrèce, 1er, toujours avant Jésus-Christ. Lucrèce qui reprend une superbe image donnée par Démocrite, nous dit que si nous voulons avoir une idée ou plutôt une image de ce qu'est la structure intime de l'univers et de tout ce qui nous entoure, on n'a qu'à, si je puis dire, il suffit de regarder l'agitation des grains de poussière dans un rayon de soleil. C'est pourquoi, publicité non déguisée, le petit livre de synthèse que vous avez eu la gentillesse de citer reprend trois
Les atomistes de l'Antiquité, Démocrite, Épicure, Lucrèce,
oui,
chef Flammarion.
Oui, c'est la synthèse d'une douzaine d'années de recherche intense et qui avait donné lieu d'abord à trois ouvrages bien volumineux, dont celui sur Démocrite que j'avais sous-titré « Grains de poussière dans un rayon de soleil ». Alors, il y a, pourrait-on dire, du dur et du mou. Je pense à un sketch de Pierre Dac. Il y a aussi dans la vie des durs et des mous. Il y a du sucré et de l'amer. Il y a du transparent et du coloré de toutes les couleurs qu'on peut imaginer. Et tout ça, selon les atomistes de l'Antiquité, les trois qu'on vient de citer, plus leurs nombreux disciples, tout ça a pour cause directe et invisible à nos yeux, bien sûr, l'agencement de petits corps insécables, atomes en grec, qui ne se distinguent entre eux que par leur forme ou leur taille. Mais ils sont tous l'être, l'être émietté. Ça ressemble, comme on dit des vulgarisateurs qui ont un peu peut-être simplifié l'affaire, à l'être incompact de Parménide, dans lequel on aurait donné un immense coup de marteau. Et il y a une infinité d'atomes dans l'univers infini qui, par leur mouvement, leur collision, leur choc, leur rebondissement et leurs agglutinations, parfois, en viennent à créer peu à peu des corps organisés, puis des mondes organisés. Mondes qui sont nés un jour, entre guillemets, qui se sont formés progressivement et qui sont appelés à mourir un jour, à se détruire.
Si les atomes sont susceptibles de se distinguer par leur figure et leur forme, vous l'avez dit, pour Lucrèce en tout cas, ils sont incolores, dit-il, sans température, sans goût et sans odeur. Finalement, ils ne varient que par leur taille.
Et leur forme.
Et leur forme.
Tout à fait. La chaleur, par exemple, est due, selon ces auteurs, qui voyaient loin, à un échauffement résultant des collisions très nombreuses d'atomes qui n'ont pas trop d'aspérité. C'est pourquoi, d'ailleurs, ils vont jusqu'à supposer que nos propriétés intellectuelles dépendent d'atomes que chez Démocrite on appelle les sphéroïdes, c'est-à-dire tout ronds. Et comme il est dit dans pas mal d'endroits, ceux qui ont un ventre rond fendent plus vite la foule pour aller au buffet lors des réceptions que ceux qui sont tout anguleux, tout en angle. Et de la même façon, les atomes de l'âme sont ceux qui se faufilent le plus vite, un peu partout dans les organes ou entre les autres atomes des autres organes. C'est comme du vif argent, c'est comme du mercure. Et la luminosité à laquelle a été comparée la pensée chez les atomistes, c'est tout simplement la luminosité des atomes de feu. Ce sont des atomes qui sont cousins de ceux du feu qu'on voit rougeoyer dans la cheminée.
Est-ce là la différence entre le corps et l'âme, puisque vous parlez de l'âme,
oui,
finalement, dans un univers matérialiste? Comment distingue-t-on le corps de l'âme, puisque tous les deux sont faits d'atomes?
Eh bien, comme aurait dit le président Mao, l'âme est dans le corps d'un individu déterminé, comme un poisson dans l'eau, c'est-à-dire plus exactement qu'il y a juxtaposition de deux tissus très discontinus, mais de deux tissus quand même, tous deux somatiques, tous deux corporels, dans un individu humain ou dans un individu de l'espèce des vers de terre. Il y a des atomes qui ont des fonctions purement végétatives et puis des atomes qui sont les supports des fonctions matérielles. De même, après tout, que quand on me dit que si je fais un petit calcul mental, sauf erreur, j'émets des ondes bêta. J'espère que ça n'est pas l'inverse. Tandis que lorsque je me relaxe et que je suis sous un électroencéphalogramme, j'émets des ondes alpha. Ben voilà, nous intuitionnons, si je puis dire, qu'il y a comme un rapport entre un substrat physique, électrique, corporel, pensé en termes d'atomes, si vous voulez, ou de molécules, et les fonctions les plus élevées qui sont les nôtres.
Mais il y a une différence ici entre l'atomisme de Lucrèce et celui de Démocrite, puisque pour Démocrite attribue le mouvement des atomes à une forme d'impulsion qui serait relative au tourbillon originel de l'univers, quand pour Lucrèce, le mouvement des atomes peut être assigné à deux causes, celle de la pesanteur et celle du choc entre les atomes. C'est pas exactement la même vision des atomes.
Non, on va faire le prof. Il n'y a pas de tourbillon originaire de l'univers, mais des mondes, n'est-ce pas ? Univers infini, nombre infini de mondes dans cet univers infini, mortalité de chacun de ces mondes, qui sont nés une fois et qui se désagrégeront également un jour. Il y a un tourbillon cosmogonique, un tourbillon d'atomes qui ressemble étrangement à ce qu'on représente quand on parle de nébuleuse, aujourd'hui encore, en astrophysique. Et peu à peu, tout ça s'organise, s'étage. Les atomes les plus gros vont vers le centre et forment, dans le cas de notre monde, une Terre. Ceux qui sont expulsés vers la périphérie s'enflamment et donnent les astres. Les étoiles qui sont composées d'atomes ignés. Alors, tout ça pour dire, quelle est votre question, docteur ?
La différence entre Démocrite et Lucrèce,
oui,
la cause et l'origine des mouvements des atomes.
Pardonnez cet oubli sénile de ce que vous demandiez. Non, je dirais que pour les trois, Démocrite, Épicure, Lucrèce, puisque c'est les trois grandes références en matière d'atomistique chez les Grecs et les Romains, les Latins, il y a... deux causes, si on est chez Démocrite, trois causes, si on est chez les épicuriens, possibles du mouvement des atomes. Chez Démocrite, comme chez les épicuriens, le poids, semble-t-il, et surtout les chocs, peuvent expliquer qu'un atome change de trajectoire ou surtout change de lieu. Il semble d'ailleurs, au passage, que chez Démocrite, ça soit plus moderne, et qui ne parle pas du poids comme d'une sorte de propriété absolue qui, dans tous les coins de l'univers, est invariante. C'est plus compliqué. Il semble bien que chez Démocrite, les atomes les plus gros deviennent les plus lourds lorsqu'ils sont capturés, agrégés au milieu d'un monde en formation, et que les atomes les plus petits deviennent les plus légers. Alors, on arrive à nos épicuriens, puisque Lucrèce, n'est-ce pas, est le chantre, le disciple, adorateur d'Épicure, qu'il va jusqu'à qualifier de dieu, Deus ille fuit, Deus, dit un vers célèbre du chant 5. Pour les épicuriens, il y a trois causes, et on va parler sur tout ça si j'ai bien compris le programme. Le poids, considéré comme une qualité absolue, évidemment ça n'est pas trop sexy, pas très moderne. L'idée qu'on pèse six fois moins sur la Lune n'aurait pas traversé l'esprit apparemment d'un épicurien. Le choc, si comme une boule de billard un atome est contrarié dans sa course par un autre qui cogne sur lui, la trajectoire va être modifiée pour l'atome numéro 1 et pour le numéro 2 qui rebondira également. Et puis alors les épicuriens introduisent, dit-on, pour sauver la liberté, mais aussi pour expliquer qu'il y ait des corps qui se soient formés par rencontre des atomes, ils introduisent cette fameuse déclinaison, déviation des atomes dont on va parler. Mais je crois qu'il faut ajouter tout de suite que pour tous, Démocrite compris bien sûr, le père fondateur, Lucrèce compris, celui qui est au bout de la chaîne des trois immenses de l'Antiquité qui ont parlé d'atomes, eh bien, comme le dit Épicure, l'intermédiaire, chronologiquement, arché des toutones ou questine, à ces mouvements, il n'y a pas eu de commencement. Tout ce dont on va parler, c'est des sortes de principes logiques, des conditions qu'on doit admettre pour penser le mouvement des atomes. Mais ce mouvement est éternel. Il n'est même pas originaire, il existe depuis l'éternité, depuis toujours. les mondes en formation résultent de l'arrivée dans un certain secteur de l'infini d'un gros paquet d'atomes qui erraient jusque-là chacun de son côté, si je puis dire, et de débris de formation, de débris résultant de la dislocation de mondes qui se sont détruits. Donc on est plutôt
Lucrèce,
devant...
Lucrèce, on cesse de le répéter, rien ne naît de rien. Il y a forcément une origine matérielle à la matière.
Oui, rien ne naît de rien, et puis rien n'a jamais commencé de ce mouvement brownien qu'il faut se représenter. Hein. C'est comme les molécules dans un gaz qui bougent tout le temps. C'est comme ça depuis toujours. Donc je termine en disant... Il faut imaginer une sorte d'universel perestroïka en russe reconstruction de monde nouveau à partir d'atomes isolés en mouvement dans le vide infini ou de fragments de monde désormais disloqués.
Alors écoutons la première mention de la déclinaison, c'est-à-dire le clinamen dans le poème de la nature de Lucrèce, suivi d'un premier argument physique. Très clair, hein, si les atomes ne déviaient pas légèrement, eh bien ils tomberaient en ligne droite, sans jamais se heurter, et donc la nature ne produirait absolument rien. C'est l'argument physique de ce qu'on appelle le clinamen, écouté interprété ici par le comédien Georges Clès.
Il est un fait que nous désirons te faire connaître. Dans la chute en ligne droite qui emporte les atomes à travers le vide, en vertu de leur poids propre, ceux-ci, à un moment indéterminé, en un endroit indéterminé, s'écartent tant soit peu de la verticale, juste assez pour que l'on puisse dire que leur mouvement se trouve modifié. Sans cette déclinaison, tous, comme des gouttes de pluie, tomberaient de haut en bas à travers les profondeurs du vide. Entre eux, nulle collision n'aurait pu naître, nul choc se produire, et jamais la nature n'eût rien créé. Que si l'on va croire que les atomes plus lourds peuvent, grâce à la vitesse plus grande qui les emporterait verticalement à travers le vide, tomber d'en haut sur les plus légers et produire ainsi des chocs capables de provoquer des mouvements créateurs, on s'écarte et se fourvoie bien loin de la vérité. Sans doute, tous les corps qui tombent à travers l'eau ou le fluide rare de l'air doivent accélérer leur chute à proportion de leur pesanteur. Car les éléments de l'eau et la nature de l'air subtil ne peuvent retarder également tous les corps et cèdent plus vite à la pression victorieuse des plus pesants. Mais pour le vide, en aucun lieu, aucun temps, il ne saurait se trouver sous aucun corps sans continuer de lui céder comme l'exige sa nature. Aussi, tous les atomes, emportés à travers le vide inerte, doivent se mouvoir avec une égale vitesse malgré l'inégalité de leur poids. Les plus lourds ne pourront donc jamais se précipiter d'en haut sur les plus légers, ni engendrer par eux-mêmes les chocs qui déterminent les mouvements divers que la nature emploie pour accomplir sa tâche. Aussi, je le répète encore, il faut que les atomes s'écartent un peu de la verticale, mais à peine, et le moins possible, que nous n'ayons pas l'air d'imaginer des mouvements que réfuterait la réalité.
Quand vous dites quelque chose d'invraisemblable et que vous voulez échapper à la critique, vous présentez un argument qui constitue une impossibilité absolue. Si bien qu'il aurait mieux valu concéder le point en discussion que de faire front avec tant d'impudence. Ainsi, Épicure, qui se rendait compte que si les atomes étaient entraînés vers le bas par leur propre poids, rien ne serait en notre pouvoir, puisque leur mouvement serait déterminé et nécessaire, trouva le moyen d'échapper à la nécessité. Ce qui apparemment avait échappé à Démocrite. Il dit que l'atome, lorsqu'il est entraîné de haut en bas, en ligne droite, par le poids et l'attraction vers le bas, dévie légèrement. Or, dire cela, c'est plus déshonorant que de ne pouvoir défendre la thèse qu'il soutient. Cette mention de la déclinaison des atomes, Jean Salem, cette existence du clinamen a fait couler énormément d'encre après Lucrèce et jusqu'au XXIe siècle hein, d'ailleurs. Un exemple de réaction, pour le coup c'était chez Cicéron, qui ne comprend pas l'introduction de ce clinamen, de cette déviation des atomes, et qui objecte à Épicure, et non pas à Lucrèce, mais bon, on l'a dit, finalement les deux relaient la même thèse, que ce n'est qu'un argument rhétorique pour justifier l'existence de la liberté. Dans un monde fait d'atomes, il est très difficile de pouvoir reconnaître, disons, toute forme de spontanéité ou de liberté humaine. Eh bien, nous dit Démocrite, c'est parce qu'il n'arrivait pas à le prouver autrement que Épicure, via Lucrèce, va inventer cette déviation des atomes qui est au fond juste bien commode pour justifier sa thèse. Comment défendez-vous Lucrèce ici, Jean Salem, contre Cicéron?
Alors, d'abord, procédé classique, on va traiter en 4 secondes le dossier Cicéron, si vous voulez bien. Cet homme qui se présente toujours comme ayant sauvé la République, etc., et qui est tout de même un bien-pensant, n'aime pas l'épicurisme, c'est le moins qu'on puisse dire. Mmh. Et il aurait même, d'après des diverses notices de Saint Jérôme, qui a vécu bien plus tard, etc., édité le poème de Lucrèce. En tout cas, dans une lettre à son frère, Quintus, il écrit « Lucreci poemata ut scribi sita sunt », le poème de Lucrèce, on dira en français. Comme tu dis, c'est fort intéressant. Mmh. Or, il ne mentionne jamais le nom de Lucrèce, tant il est le contemporain, quasiment, dans ses écrits. Il y a une mise sous le boisseau, pour pas dire une censure, du matérialisme épicurien chez les bien-pensants de toutes les époques, qui ont professé, en l'occurrence les épicuriens, des thèses tout de même assez croquignoles. Les dieux n'interviennent absolument pas dans les affaires humaines, ou si ils existent, certes, mais ils sont faits d'atomes et ils sont localisés dans les intermondes. Donc les gratifications, les sanctions qu'ils pourraient nous accorder, tout ça, ce sont des fariboles, des fables populaires. Il n'y a rien après la mort. La politique est tellement désespérante qu'il n'y a pas trop lieu de suivre le cortège de tel ou tel démagogue ou de tel ou tel apprenti dictateur. Toute coïncidence avec une époque, etc., qui pourrait venir à l'esprit des auditeurs doit être proscrite. Bref, ils n'aiment pas, pour des raisons politiques, pour des raisons idéologiques, pour des raisons de bien-pensance, ces gens-là. Et il inaugure, il est le premier finalement, à inaugurer la cohorte de tous ceux qui vont parler, Leibniz bien plus tard, de la déclinaison ridicule des atomes, des épicuriens. Bergson, Paul Nizan, qui a de la sympathie pour les épicuriens, tous ces gens considèrent qu'il y a là une sorte de faillite, de faute logique, de bizarrerie, alors qu'il s'agit tout de même d'essayer d'introduire peut-être une marge d'indétermination dans le matérialisme, et on peut même dire le nécessitarisme démocritéen.
Alors juste,
si tout se passe comme si c'était déjà écrit dans les étoiles, ou plus exactement dans les mouvements antécédents de chacune des particules de ce billiard ball universe, comme dit un commentateur, cet univers de boules de billard, ça va être difficile de pratiquer l'admonestation et le blâme, comme disent certains épicuriens, et comme Épicure lui-même le dit. Un héros, un salaud, comme eût dit Sartre, ça n'existe pas si... Tout est déterminé dans nos gènes ou dans les mouvements des atomes il y a quelques milliards d'années.
En un mot, juste avant, puisque la question du clinamen est vraiment au cœur du poème même de Lucrèce, et on n'aura pas assez le temps d'une émission pour en faire le tour. Le clinamen, on appelle ça la déclinaison, c'est-à-dire que le fait qu'un atome ne suive pas une trajectoire qui semblait déterminé. Donc, toute la question est de savoir, est-ce que c'est l'introduction d'une indétermination, ou bien si c'est une détermination qui elle-même ne suit pas les autres déterminations. Il y a deux possibilités. En termes purement physiques, pour l'instant, Jean-Salem, parce qu'après, il y a toute une des conclusions éthiques à tirer de cette intervention du clinamen au sein du matérialisme de Lucrèce.
Et de toute façon, on est bien d'accord que le texte de Lucrèce est divisé en deux parties, deux arguments.
Voilà, on vient d'entendre le premier.
On vient d'entendre le premier. Sans la déclinaison, la nature n'aurait rien créé. Au sens des anciens, c'est-à-dire elle n'aurait rien organisé.
Mais alors pourquoi a-t-il besoin de la déclinaison pour montrer, pour justifier la création de la nature ? Finalement, les atomes, vous l'avez dit, se rencontrent. Et c'est ça qui crée la nature.
Ben, on va le dire, et grand 2, champ 2, vers 251 et suivant, sans la déclinaison, tu ne pourrais pas expliquer la liberté. Tu ne pourrais pas expliquer la liberté que nous expérimentons. Alors, je reviens à la première partie et à votre question. C'est en fonction, certainement, bien sûr, de la solide critique apportée par Aristote au livre 4 de la physique, dans le traité du ciel, au livre 1, chapitre 7, et puis il y revient, au livre 2, au livre 3 et 4. Solide critique qu'avait apportée Aristote contre le démocritéisme, qui tient en ceci, en gros, de toute façon, dans le vide, ce n'est pas comme dans l'air ou dans l'eau. Lucrèce reprend cela d'ailleurs textuellement. Les plus lourds des atomes ou les plus gros ne vont pas rattraper les plus légers. Tout se mouvra à la même vitesse. Par conséquent, vous ne pouvez pas expliquer dans le vide comment il y a des rencontres entre atomes. Alors, solution, avec encore une fois deux grands principes. Petit 1, celui que j'ai évoqué tout à l'heure. Archée des Toutones ou Questine. À ces mouvements, il n'y a pas eu de commencement. Il ne faut pas imaginer une pluie d'atomes. Puis enfin, la première déclinaison est intervenue et les atomes ont commencé de se cogner, de se rencontrer. Absolument pas. Depuis toujours, il y a le poids, les chocs et la déclinaison qui, selon les épicuriens, explique la formation de ce que nous pouvons voir de nos yeux. Et d'autre part, tout ça est conforme d'une certaine façon, mais là j'anticipe un peu, au principe ex nihilo nihil, rien ne peut naître de rien. Tu éprouves le sentiment de la liberté, ça a donc bien rapport avec quelque chose qui est dans les éléments de l'ordre de la spontanéité. Un observateur qui disposerait de toutes les données, à la différence du génial observateur de la place qui ressemble beaucoup au Dieu Tout-Puissant, quelqu'un qui pourrait soumettre tous les mouvements de tous les atomes de l'univers à l'analyse, il ne pourrait pas forcément prévoir, selon Lucrèce, à la différence de ce que dira Laplace, il ne pourrait pas prévoir ce qui va se passer dans le moindre détail à l'instant suivant.
Un petit atome qui se balançait dans une grosse molécule, ce petit atome qui s'ennuyait craignait surtout le ridicule. Quand un photon vint le rencontrer, un gros photon dans l'infrarouge, même infrarouge, un seul photon, ça peut rompre une liaison. Le petit atome ainsi balancé quitta sa chère molécule, pauvre molécule décomposée, ça lui fait mal à la formule. Mais le petit atome au fond d'un cristal trouva bien vite une vacance. Ah, les vacances original, quand les neutrons ouvrent le bal. Le petit atome.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance et la mélancolie du petit atome, chanté par Paul Brafort. Il est 10h29 et c'est le troisième temps de notre série d'émissions consacrée au poème de la nature de Lucrèce. Et pour l'occasion, j'ai le grand plaisir de recevoir le professeur d'histoire de la philosophie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Jean Salem, auteur d'un ouvrage intitulé « Les atomistes de l'Antiquité, Démocrite, Épicure et Lucrèce » paru chez Flammarion, avec qui nous discutons du statut du clinamen, cette étrange déclinaison des atomes au sein du poème de Lucrèce.
Si toujours tous les mouvements sont solidaires, si toujours un mouvement nouveau naît d'un plus ancien suivant un ordre inflexible, si par leur déclinaison les atomes ne prennent pas l'initiative d'un mouvement qui rompe les lois du destin pour empêcher la succession indéfinie des causes, d'où vient cette liberté accordée sur Terre à tout ce qui respire? D'où vient, dis-je, cette volonté arrachée au destin qui nous fait aller partout où le plaisir entraîne chacun de nous et, comme les atomes, nous permet de changer de direction sans être déterminé par le temps ni par le lieu, mais suivant le gré de notre esprit lui-même. Car sans aucun doute, de pareils actes ont chez nous leur principe dans la volonté. C'est la source d'où le mouvement se répand dans nos membres. Ainsi, vois-tu, bien qu'une force extérieure pousse l'homme, souvent l'oblige à marcher malgré lui et l'emporte et le précipite, il y a pourtant dans notre cœur quelque chose de capable de la combattre et de lui résister. C'est au gré de cette volonté que la masse de la matière est, elle aussi, contrainte de se diriger dans le corps et dans les membres, qu'elle est réfrénée dans son élan et ramenée au repos en arrière. Aussi faut-il accorder aux atomes la même propriété et reconnaître qu'il existe en eux, outre les chocs et la pesanteur, une autre cause motrice, d'où provient en nous le pouvoir de la volonté, puisque, nous le voyons, de rien, rien ne peut naître. La pesanteur sans doute empêche que tout ne se fasse par des chocs, c'est-à-dire par une force extérieure. Mais si l'esprit lui-même n'est pas régi dans tous ses actes par une nécessité intérieure, s'il échappe à cette domination et n'est pas réduit à une entière passivité, c'est l'effet de cette légère déviation des atomes en un lieu, en un temps, que rien ne détermine.
Et c'est au chant 2 de son poème de la nature, des vers 251 à 293, que Lucrèce, après avoir longuement décrit la matière de la nature, à savoir donc les atomes dont nous parlons depuis le début de cette émission, introduit le terme de liberté, le terme de volonté, celui de cœur, tant et si bien que nous avons du mal à comprendre en quoi finalement cette déclinaison des atomes, en quoi consiste le clinamen, reste matérielle. C'est comme si ici Lucrèce procédait à un saut qualitatif et qu'il postulait l'existence de liberté au sein d'un monde qui semble tout faire pour la rendre impossible. Comment comprendre ce paradoxe, Jean Salem ?
Ça va être difficile de parler un minimum, mais je vais parler autour de trois mots. Minimum, déclinaison, nous aussi nous déclinons, déclinamus, dit le vers 259 du même chant 2. Et puis... Et puis ça suffit, j'y vais.
Partons sur deux points, voilà, deux termes déjà.
Les trois sont deux.
Allez-y.
D'abord les épicuriens, pour des raisons de cohérence systématique, et puis parce que c'est leur pente, leur tempérament, adorent parler de minimum. On trouve des termes qui disent le minimum partout, chez Lucrèce, chez Épicure, Toélakiston en grec notamment. Et, ou de limite aussi. Alors, pour ce qui est de cette fameuse déclinaison, on est bien d'accord. En un temps, en un lieu que rien ne détermine, en un temps, en un lieu indéterminé, l'atome, pas forcément qui tombe tout droit d'un haut absolu, qui entre nous n'existe pas, vers un bas absolu. Dans toutes les directions de l'espace, l'atome qui est sur une certaine trajectoire peut dévier selon un angle minimal, pas infinitésimal, tout petit. Il y a une certaine pente angulaire. Et alors, les épicuriens, encore une fois, se régalent. Ils aiment bien même parler de partie minimale dans l'atome. N'allons pas penser aux électrons ou aux neutrons des modernes. Un atome est insécable, mais si je le visualise, si je l'imagine, je peux y décrire des aires, A-I-R-E-S, des petites surfaces, on pourrait dire même des petits cubes, si on a envie, pour simplifier, mais ça, c'est pas de l'épicurisme. Et un atome est forcément le multiple entier de ce que les épicuriens appellent les petites parties, minima et partes, les parties minimales. Pas infiniment petites, très 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 petites. De même, et je passe sur 1000 autres détails, ils adorent donc parler de cet angle minimal, de cette sorte de minimum trigonométrique qui est la petite déviation qui s'emparerait, si je puis dire, de la trajectoire de l'atome et de l'atome lui-même. Et ça correspond à quoi ? Ça correspond au fait qu'il faut bien loger une certaine spontanéité dans les particules élémentaires si on veut expliquer d'abord que depuis l'éternité, elles se rencontrent et elles ne tombent pas les unes sans rattraper les autres. Et ça a aussi l'effet d'expliquer, d'après les épicuriens, en vertu d'exemples un peu bizarres qu'on va évoquer, notre liberté. Mais je tiens à revenir sur deux choses.
Et oui, mais quand terminé. Même. Oui, non, mais on aura surtout essayé de répondre à la question pourquoi liberté ? Que vient faire ce terme ici dans un univers atomiste ? Déclinaison des atomes, soit. Déviation, pourquoi pas ? Mais pourquoi liberté ? Ici, Lucrèce semble donner raison à Cicéron. On a l'impression que c'est parce qu'il est bien en peine d'expliquer le phénomène de la volonté et de la liberté, bien qu'il distingue les deux, eh bien qu'il trouve disons, une explication physique à cette liberté en invoquant la déclinaison des atomes.
Bon, donc on a réglé l'affaire, je vous réponds, rassurez-vous, on a réglé l'affaire du minimum, nec plus quam minimum, paolulum, dit Cicéron en résumant Lucrèce avant de le dauber, de se moquer de lui, avant de dauber ce qu'il a dit, intervallo minimo, bon, un tout petit angle. Alors, les atomes tomberaient, conditionnels. Ça n'est jamais arrivé historiquement. Uti imbris guttae, comme des gouttes de pluie, selon des lignes parallèles, de haut en bas. Ça, c'est plutôt naïf dans la physique épicurienne de considérer qu'il y a un haut et un bas absolu dans l'univers. Et il ne se rattraperait jamais s'il n'y avait pas quelque chose qui fait qu'ils puissent entrer en collision,
ça,
que leur trajectoire se croise.
On est d'accord,
Bon. D'autre part, comment peux-tu expliquer que je lève le bras, que je sois obsédé par une telle plutôt que par sa sœur cadette, s'il n'y a pas une part de décision, osons dire le grand mot, si nous ne sommes pas de simples marionnettes du destin? Bref, pour le dire de façon beaucoup plus générale, globale, mais un petit peu historisante quand même, moi j'ai toujours été un peu stupéfait par cet adossement obsessionnel du marxisme, par exemple, au spinozisme, par cette identification du matérialisme, de tous les matérialismes à Spinoza. Il y a, comme a dit le dernier Althusser dans ses derniers écrits, une tradition matérialiste qui veut absolument sauver le fait de ce qu'on appelle, même chez ceux d'en face, la liberté, une marge d'indétermination. Alors, là, c'est vous qui me propulsez dans le tunnel suivant.
D'abord, parce que c'est pas la même chose, juste marge d'indétermination, c'est pas forcément synonyme de liberté.
Tout à fait d'accord.
C'est ça qui est surprenant dans le terme de Lucrèce.
Oui, ouais. Oui. Il y a d'abord le cas Lucrèce. Après le dossier Cicéron, le dossier Lucrèce, c'est que ça n'est pas limpide, c'est le moins qu'on puisse dire. Le comment de la liberté dans ces textes pourtant somptueux. D'ailleurs, Lucrèce donne deux exemples qui nous laissent un peu perplexes. Moins le deuxième que le premier. Tu veux deux preuves de ce que ça existe, la liberté ? Ben, les chevaux qui piaffent d'impatience quand ils sont retenus dans leur box ou au départ d'une course et qui attendent que les herses changent de position pour s'élancer, le fait même que ça mette un certain temps, l'impulsion, le fait qu'ils s'élancent quand enfin ils ont la voie libre, ça prouverait, selon Lucrèce, l'existence de ce mouvement bizarroïde, la déclinaison. Il faut que les atomes de leur âme, de leur cœur, commencent à ébranler de proche en proche les autres atomes jusqu'à ceux de la périphérie de leur corps, de leurs sabots, pour que ça démarre. Bon, bizarre comme première preuve, entre guillemets. La deuxième est quand même beaucoup plus sexy en période de robotisation des esprits. On me l'avait fait remarquer un jour en me disant « c'est quand même assez clair ». Si une foule me pousse dans un sens, je peux bander mes muscles, agiter mes petits bras, faire quelque chose avec mon épaule pour ne pas me laisser entraîner par cette foule. Ce serait, selon Lucrèce, dans ces textes-là, la preuve numéro 2 de ce qu'il faut bien admettre l'existence de la déclinaison. Alors, fin du tunnel, comme on dit à la radio, c'est promis, mais c'est un petit peu long.
des interprètes. Surtout, le suspense est entier, là, Jean Salem. On attend la résolution.
C'est fait pour.
Parce qu'on ne comprend toujours pas pourquoi il y a l'intervention de liberté dans ce que vous dites, puisqu'il s'agit d'instinct, oui, dans le cas des chevaux comme dans le cas de la foule.
Alors, Il y a l'autorité de Giussani, un interprète de la fin du 19e siècle, italien, et de Bailey, commentateur britannique, 1925-30, qui a longtemps prévalu et qui nous donne une solution purement verbale pour expliquer ces textes bizarres de Lucrèce, car on a oublié de dire, moi surtout, que dans ce qui nous reste d'Épicure, il n'est jamais fait mention de la déclinaison. Mais tout laisse penser qu'il y avait la place pour, et que certainement Épicure a professé lui-même cette doctrine. Bizarre. C'est Lucrèce qui nous a laissé les textes, et Giussani, Bailey disent que, alors, ce qui est un hasard stochastique purement irrégulé pour l'atome individuel, devient dans l'esprit, lorsque par exemple il prend une décision, un hasard conscient. C'est de la bouillie verbale, qu'est-ce que c'est qu'un hasard conscient? D'autant que le sage ancien, après Aristote et pour tout le monde, n'est absolument pas quelqu'un qui est tiraillé entre plusieurs tentations, qui se dit « je voudrais bien mais je peux pas ». Vous me taperez sur les doigts si j'évoque Léon Blum, mais personne n'est parfait. Madame Torres me disait qu'on dit dans le Nord de quelqu'un qui n'est pas vraiment décidé, il a l'épouse dans ses mains. Il a l'épouse dans ses mains, il garde l'épouse dans les mains. Et au meeting de Léon Blum, pleurnichant parce qu'il aurait bien voulu, mais il n'a pas pu aider la République espagnole agressée par les fascistes, elle l'a vu avec l'épouse dans ses mains. Alors, c'est pas ça le sage antique. Le sage antique, il est régulé, si je puis dire, de telle façon qu'il y a certains désirs, sauter sur la première jolie femme qui passe, par exemple, qui ne peuvent même pas apparaître à ce qu'on appelle sa conscience. Alors, dernière solution.
Allez, il nous reste 4 minutes, donc là, il faut y aller, Jean-Salle.
On plonge direct, 1984, avant-hier, mais on s'arrêtera là. Moi, je trouve très séduisante l'hypothèse d'un certain Saunders, un interprète parmi beaucoup d'autres. Lorsque Lucrèce nous parle dans le champ 4 d'un monsieur qui décide de se lever, il décrit comment les atomes de proche en proche de son cœur et puis de la partie rationnelle de son âme et puis de ses jambes commencent de s'ébranler progressivement. Et là, il n'y a pas un mot sur la déclinaison. Parce que c'est une décision stupidement banale qui est prise 10 fois par jour par un homme pas trop ramollo. Mais tout semble se passer comme si la déclinaison aidait au moins à expliquer, du côté de notre liberté macroscopique, la formation de nouveaux schèmes d'action. Pour répondre à quelque chose d'un peu inattendu, je suis poussé par une foule, où le cheval est coincé, il n'a pas l'habitude. Pour provoquer la formation de « new atomic soul patterns », dit cet interprète, de nouveaux schémas, de nouveaux patrons atomiques, de nouvelles structures mentales, il faut bien avoir un petit quelque chose, même si ça a l'air d'un deus ex machina, d'un bricolage qui fait beaucoup rire les adversaires, qui explique que dans les particules, encore une fois, qui nous composent, il y a quelque chose d'analogue à cette spontanéité que nous expérimentons.
On peut ici suivre l'interprétation qu'en donne Gilles Deleuze en Logique du sens, où il dit que le clinamen ou la déclinaison n'a rien à voir, dit-il, avec un mouvement oblique qui viendrait par hasard modifier une chute verticale. Il est présent de tout temps, il n'est pas un mouvement second, ni une seconde détermination du mouvement qui se produirait à un moment quelconque, en un endroit quelconque. Le clinamen est la détermination originelle de la direction du mouvement de l'atome. Et il me semble que ce que dit Deleuze ici permet de contredire les interprétations du clinamen qui tendraient vers une forme d'introduction du hasard au sein de la nécessité. Ou alors il faut entendre hasard dans le sens spinoziste, à savoir une forme de déterminisme qui n'est pas compris. Et donc finalement, est-ce que le clinamen est-il autre chose qu'une détermination préprogrammée, disons, de l'atome qui n'existe que parce qu'il va dévier de la trajectoire, mais qu'il ne faut pas y voir l'intervention ni du hasard, ni d'une forme de liberté, et à peine d'une forme de spontanéité. Qu'en pensez-vous, Jean Salem?
Je pense...
Il me reste 1 minute 30.
Oui, je pense que Deleuze, j'approuve tout à fait ce que vous avez lu, que ce soit le mouvement premier ou second ou troisième, ça m'importe assez peu, mais tout le reste, je suis absolument d'accord. Pour ce qui est du hasard et de la nécessité, c'est impressionnant de voir à quel méli-mélo ça aboutit. Épicure, Démocrite sont baptisés par ceux d'en face, philosophes du hasard aveugle ou de la nécessité aveugle, parfois à propos de la même phrase. Bon, ce qui est embêtant, c'est que c'est aveugle. C'est que c'est une nature, comme dit un Italien, senza scopo prefisso, sans dessin, deux S-E-I-N arrêtés à l'avance. Il n'y a pas de providence, et ça manque cruellement à tous ceux qui s'énervent sur le hasard et la nécessité. Mais là où Deleuze a encore et encore raison, c'est que, comme Marx, d'une certaine façon, dans sa dissertation de philosophie, sa thèse de jeunesse, bah, il a l'air de dire d'une certaine façon que, métaphoriquement, elle est présente partout dans la philosophie épicurienne, cette déclinaison dont on parle à propos de la cuisine très très physique, là, de l'atome. Les dieux, ils dévient du monde d'une certaine façon. Ils s'occupent surtout pas de nos affaires et ils ne logent pas dans le monde. Le plaisir maximal, c'est la déviation, c'est l'exemption de toute douleur. Et entre nous, c'est l'état normal de celui qui ne cherche pas de complications et qui n'est pas en train de se faire amputer à vif une jambe ou les deux.
Donc ce serait une utilisation métaphorique de la déclinaison par Marx qui montre que toute la philosophie épicurienne s'écarte de la réalité.
C'est une sorte de déviation, bien sûr. Les sages vivent à l'extérieur de l'agitation de la place publique, du cirque, je ne vais pas nommer des ministres démissionnaires, mais du cirque médiatico-politique. Donc, et j'ai terminé en vous disant, les jeunes gens se moquent de leur camarade qui est devenu amoureux, amoureux transi, d'une seule en lui disant « mais détourne un peu ton regard, décline d'une certaine façon, et puis regarde les autres ». Et je viens de sortir d'une zone de turbulence côté santé, mais entre autres le plaisir de citer Épicure dans toutes les langues à ceux qui se sont occupés gentiment de moi pour me remettre en forme. C'est une manière de décliner la pensée de la mort, la crainte. On décline en trouvant des passions. Voilà, nil mors est ad nos neco pertinet illum. La mort n'est rien pour nous et elle ne nous touche en rien. Et puis, on peut dire ça dans toutes les langues, mais ça suffit.
Merci Jean Salem pour cette déclinaison atomistique. Lucrèce ou la poésie dérivative des atomes. Les atomes à la dérive ont leur poésie aussi. Vous la trouvez dans le poème de la nature de Lucrèce, chers auditeurs. Lisez-le, plongez-vous dans cet univers incroyable d'un lyrisme sombre, mélancolique et magnifique en même temps. Vous trouvez la traduction notamment en Garnier, Flammarion ou bien aux belles lettres. Les deux sont possibles. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, il est 10h48. Encore 2 minutes, papillon, sur la musique de Postal Service. Il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, Géraldine Mosna-Savoie, qui vient vous donner envie de lire un livre de philosophie qui vient de paraître. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Et c'est Baudrillard au programme aujourd'hui.
Oui, c'est Baudrillard, c'est un ouvrage collectif. Baudrillard, cet attracteur intellectuel étrange. C'est un ouvrage sous la direction de Nicolas Poirier qui est paru aux éditions du Bord de l'Eau.
Un individu est là, il vous fait face, vous y confrontez. Il vous défie par sa propre subjectivité. Et moi, je cherchais une espèce d'objectalité, pas de subjectivité, ni pas même la mienne. Alors, je ne vais pas aller chercher celle des autres, puisque moi, je cherchais plutôt à passer à côté de la mienne.
Subjectivité, objectalité, pas de doute, c'est bien Jean Baudrillard qui vous parle. C'était en 1999, alors que ses photographies d'objets allaient être exposées pour la première fois. Un individu qui nous défie par sa propre subjectivité et que l'on cherche à appréhender comme une objectalité, c'est bien aussi de Baudrillard qu'il s'agit, dès lors que des travaux tentent de saisir l'instantané de son parcours. Mais Baudrillard, si productif quant à la question des objets et si peu soucieux de sa propre subjectivité, peut-il prétendre à être un objet d'étude? Et inversement, bouleversement, et c'est la question plus large que l'on peut lui poser, peut-on échapper à la subjectivité des individus et à la sienne? Peut-on passer à côté? Ne sommes-nous pas toujours, et d'abord, des sujets? L'ouvrage collectif qui vient de paraître aux éditions du Bord de l'eau, sous la direction de Nicolas Poirier, et qui lui est consacré, a choisi pour titre « Baudrillard, cet attracteur intellectuel étrange ». Étrange justement, mais si juste, car un attracteur étrange n'est pas seulement une formule dont on comprend intuitivement le sens, mais c'est aussi un objet mathématique, c'est plus précisément une représentation dynamique, une modélisation de certains états turbulents. Et c'est une image parfaite pour décrire Baudrillard, tout à la fois paradoxal, évanescent dans l'hyper-réalité du virtuel et si prompte à modéliser les bouleversements technologiques, informatifs, politiques de notre époque, comme le rappelle chacun de ses textes. Mais c'est aussi une image parfaite pour Baudrillard parce qu'elle est précisément une image. C'est une illusion qui ne s'oppose pas à la réalité, c'est une illusion qui nous permet de le capter, mais qui nous permet surtout et contre lui d'en faire le sujet de sa propre photographie.
Baudrillard, cet attracteur intellectuel étrange, c'est le titre du livre.
C'est ça, joli titre, sous la direction donc de Nicolas Poirier, cet ouvrage collectif, et c'est aux éditions du Bord de l'eau.
Merci Géraldine, merci Jean Salem et merci à tous. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, pas d'inquiétude. On se retrouve demain pour la suite et fin de cette semaine consacrée à Lucrèce, le poète philosophe. Demain, ce sera Patrick Dandré qui viendra vous parler de la postérité de Lucrèce au XVIIe siècle, entre athéisme et libertinage, de La Fontaine à Molière. Si vous voulez réécouter cette émission ainsi que toutes celles de cette semaine, rien de plus simple, rendez-vous sur le site de France Culture, la page des nouveaux chemins. Vous pourrez la réécouter en ligne, mais également la télécharger, la podcaster afin de l'écouter à l'heure de votre choix. Et puis nous vous donnons également rendez-vous sur nos comptes Facebook et Twitter où les nouveaux chemins mettent en ligne quotidiennement l'émission du jour.